Chapitre 5. Un malaise étrange s'empare de Hugo, brutalement tiré de son sommeil. C'est le milieu de la nuit. Il ignore ce qui l'a réveillé. Immobile dans son lit, il tend l'oreille. Il perçoit des coups étouffés, irréguliers, à travers les murs de la maison. Puis, le bruit s'arrête. Il ouvre les yeux dans l'obscurité et regarde la lampe au plafond. Une boule de papier de riz soutenue par de fines tiges de bambou. Ces derniers temps, plusieurs braquages violents ont eu lieu au sud de Stockholm. La police a lancé des alertes. On pense qu'il s'agit d'un groupe de professionnels formés et équipés comme des militaires. Ils s'introduisent dans les maisons la nuit, extorquent aux familles de grosses sommes d'argent par virement bancaire, puis les laissent derrière eux mutilés, violés et tués. Le bruit court sur les réseaux sociaux que leur chef ressemblerait à un squelette. On raconte qu'il tue les séquestrés à coups de pelle avant de brûler leur maison. Les coups sourds reprennent, avant de cesser à nouveau. Hugo tourne son regard vers le store baissé. Le rectangle gris semble flotter dans la pénombre. L'éclairage du jardin est allumé et l'ombre des branches nues du lilas dessine comme des fissures sur le tissu lisse. Il ferme ses yeux fatigués, se détend un peu. Une voiture passe dans la rue. Il aimerait regarder l'heure sur son téléphone, voir si Olga lui a envoyé d'autres photos étranges, mais il n'en a pas la force. Il essaie de se rendormir, mais il est brutalement tiré de sa somnolence. Dehors, des pas feutrés font crisser l'herbe gelée. Une silhouette passe derrière le store. L'instant d'après, les fenêtres éclatent à l'arrière de la maison. Des bruits mats retentissent derrière les poutres. La structure de la maison semble craquer et un petit nuage de poussière tombe du plafond. Glacé par l'adrénaline, Hugo se glisse silencieusement hors du lit et s'allonge à plat ventre sur le sol. Il sursaute quand il entend la porte d'entrée voler en éclats et les morceaux de verre, de bois et de métal s'écraser sur le carrelage. Une voix aboie un ordre bref, puis des bottes martèlent les marches de l'escalier. Hugo s'approche furtivement de la fenêtre, écarte le store et scrute le jardin plongé dans l'obscurité. Il doit sortir de la maison, s'enfuir, appeler la police. Ses mains cherchent désespérément la poignée de la fenêtre, mais elle a été enlevée. Des voix d'hommes, agressives, hurlent à l'étage. Puis le bruit d'une carafe en verre qui se brise sur le sol. Une odeur de fumée envahit la maison. Hugo essaie de saisir le cadre de la fenêtre, tire. Mais il est scellé de l'extérieur. Deux rafales de tirs automatiques fusent, suivies des cris perçants d'une femme. C'est Agnetta, mais sa voix est si terrifiée qu'il peine à la reconnaître. Hugo entend son père crier « Ne la touchez pas !» Puis les détonations rapides d'un fusil d'assaut. Du verre éclate. Agnetta hurle à nouveau et Hugo entend le bruit d'un corps projeté hors du lit et traîné vers la porte. Le cœur battant, il cogne des poings contre la fenêtre, mais la vitre est recouverte d'un matériau solide. Curieusement, sous une petite trappe en acier à lamelles horizontales, est affiché un plan d'évacuation en cas d'incendie. Des pas rapides dévalent l'escalier, suivis d'ordres brefs, puis les portes du couloir explosent sous les coups de pied. Sans bruit, Hugo retourne vers son lit, et les mains tremblantes, il positionne l'oreiller sous la couverture jaune pour former un corps. Ils seront bientôt là. Il se glisse sous le lit, se presse contre le mur et retient son souffle. Sa porte éclate en morceaux. Il fait jour lorsqu'Hugo se réveille sous le lit. Une vague d'angoisse le saisit quand il prend conscience de l'endroit où il se trouve. Il se traîne hors de son abri et se redresse. Tout son corps est douloureux. La couverture jaune de la prison est roulée sur le matelas. Il s'assied au bord du lit et regarde ses mains. Une de ses articulations est noire de sang coagulé et de larges hématomes forment comme des nuages sombres sous sa peau. Hugo comprend qu'il a été victime d'une crise de somnambulisme, mais il ne se souvient que de fragments de son cauchemar. Des cris et des tirs venant de l'étage. Hier après-midi, lors de l'audience de mise en détention, le procureur a invoqué l'article 23 de la loi sur les délinquants juvéniles concernant les circonstances exceptionnelles. Lorsque le tribunal a annoncé qu'il suivait la ligne du procureur, Hugo a regardé son père. Ses yeux étaient vides et son menton tremblait sous le poids des émotions contenues. Soupçonné de meurtre, Hugo est placé en détention provisoire dans l'établissement pénitentiaire de Kronoberg. Parce qu'il n'a pas encore 18 ans, cette détention ne peut excéder 3 mois avant l'inculpation. Il n'a passé qu'une nuit en prison et sent déjà la panique qui s'installe. Il repousse une mèche de cheveux derrière son oreille, laisse son regard errer dans l'étroite cellule. Elle est meublée d'un lit dont les montants sont fixés au mur, d'une étagère, d'une chaise et d'un bureau en pin, le tout abîmé par le temps. Il n'y a pas de toilette, mais on peut uriner dans le lavabo. D'un côté de la pièce, une fenêtre est protégée par 5 solides barreaux en acier blanc disposés horizontalement devant la vitre. De l'autre côté, une niche poussiéreuse jouxte une autre fenêtre. Le ciel est sombre au-dessus des toits. Hugo se rend compte qu'il sent la transpiration. Il porte le pantalon et le t-shirt vert pâle de la prison. Ses pantoufles blanches reposent sur le tapis en plastique gris. Ce qu'il vit lui semble déjà insupportable. Hier, il a raté son rendez-vous à la rédaction de Colt. Pas grave, pense-t-il. Il en aurait été incapable. Et de toute façon, il n'aurait jamais pu entreprendre son voyage. Il est bien trop désorganisé. Quand Hugo avait 7 ans, ses parents se sont séparés. Claire, sa mère, n'avait jamais aimé la Suède. Elle est devenue accro aux opioïdes synthétiques et est retournée vivre à Québec. Au début, elle appelait Hugo chaque semaine. Mais au fil des années, les échanges se sont espacés et elle a commencé à oublier ses anniversaires. Quand son père a rencontré Agnetta, Claire a presque totalement cessé de donner de ses nouvelles. Depuis 2 ans, elle n'a pas répondu une seule fois à ses lettres. Peut-être est-elle en cure de désintoxication. Peut-être a-t-elle juste changé d'adresse. C'est lorsque Hugo a rencontré Olga il y a 9 mois qu'il a commencé à comprendre à quel point sa mère lui manquait. Avec Olga, il pouvait parler de Claire. À chaque fois, il était submergé par ses émotions. Il réalisait que son absence avait affecté toute sa vie. Partir ensemble cet été au Canada pour retrouver sa mère était l'idée d'Olga. Mais il faut que tu sois prêt à ce que Claire soit toujours une toxico. Avec tout ce que ça implique, l'avait-elle mise en garde en allumant une cigarette. Je m'attends pas à une réconciliation heureuse. Je veux juste la voir, lui dire bonjour et la regarder droit dans les yeux. Tu sais, ça me rend physiquement malade de penser que j'étais sur le point de l'oublier complètement, avait-il répondu. Il y a 4 mois, lui et Olga ont ouvert un compte épargne commun pour leur voyage. Olga y a déjà déposé presque 3 fois plus d'argent que Hugo, mais il prévoyait de travailler pendant les vacances de Noël et peut-être de demander un prêt à son père. Olga parle français, elle a son permis de conduire et elle lui a promis de l'aider à retrouver Claire. Parfois, il imagine sa mère vivant seule dans la vieille maison de ses parents à Grand Village, avec un chien, un potager et des poules dans le jardin. Elle est sobre depuis plusieurs années, possède un vieux pick-up Ford rouillé et travaille à temps partiel dans une crèche à Cap-Rouge. Il restera chez elle lorsqu'Olga repartira. Il passera tout l'été avec elle, et avant de revenir en Suède, il l'emmènera dans un bon restaurant avec des nappes blanches et des lanternes colorées suspendues au plafond. Ils s'habilleront bien et resteront à table pendant des heures. Elle lui dira « Pardon de ne pas avoir pu être ta mère avant. » Et au moment du dessert, il lui offrira son dinar en argent. Hugo n'a aucune idée de la provenance de cette pièce. Il l'avait trouvée dans sa main un matin où il s'était réveillé dans la forêt après une crise de somnambulisme. Il était encore enfant. Depuis, il la porte pendue à une fine chaîne autour de son cou, comme un talisman. Il aime à penser qu'elle le protège. C'est une pièce en argent martelée, particulièrement fine, avec gravé dessus un chien ou un loup entouré de signes qui ressemblent à des caractères arabes. Quand il a raconté son rêve du restaurant avec sa mère à Olga, elle lui a pincé la joue comme s'il était un enfant et lui a dit qu'il était trop mignon. Hugo se relève et se passe une main dans les cheveux. Il a mal au ventre et espère que l'heure du petit déjeuner approche. Il entend des pas dans le couloir, les roues d'un chariot qui grincent, puis un cri derrière les murs épais. Il voit alors les traces de sang sur l'intérieur de la porte, les barreaux en acier devant la lucarne et la vie plastifiée indiquant le plan d'évacuation en cas d'incendie. Il comprend qu'il a tenté de s'échapper de sa cellule pendant son sommeil.